L'aime. L'émission. L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission, le magazine qui plonge vos oreilles dans le Finistère, avec toujours en cette 9e saison et en cette nouvelle année, les invités du LEM, la première partie qu'on peut réécouter le lendemain à 8h30. Aujourd'hui, deux fidèles amies et partenaires gourmandes, les représentantes de l'association 4 quarts qui s'intéressent aux questions liées à l'alimentation dans toutes ses dimensions, et elles sont multiples, dimensions sociales, économiques, de santé, de plaisir d'essence, et bien sûr la dimension culturelle. Alors ce sera surtout celle-ci qui va nous intéresser aujourd'hui, puisque c'est la saison et c'est même le jour J, le 6 janvier dans le calendrier chrétien, l'épiphanie. Même quand on n'est pas croyant, on sait, on la voit partout, on l'aime quand elle est bien faite avec du beurre dedans.
J'aime la galette, savez-vous comment? Quand elle est bien faite avec du beurre dedans.
La galette. Françoise Doucet, Eliane Lardier, dont c'est l'anniversaire, bon anniversaire, et Pascal Osier sont avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Véronique.
Alors on va commencer par la logique, hein. L'histoire de la galette, d'où ça sort, d'où ça vient la galette.
Ça vient de loin.
C'est Françoise là qui parle.
Ça remonte à l'Antiquité romaine. Et finalement, alors là, c'était une fête païenne.
Comme la plupart des fêtes chrétiennes qui étaient des fêtes païennes.
Voilà, à l'origine, ça correspondait à la fête des Saturnales en décembre-janvier. Et ça fêtait donc le solstice d'hiver. On fêtait le retour du soleil, enfin la fin du solstice d'hiver. On fêtait le retour du soleil, le début de l'allongement des journées. On faisait tomber les barrières sociales.
Mais c'était peut-être pas début janvier, c'était peut-être plutôt vers décembre.
Alors,
ce que nous on appelle décembre. Alors,
oui, c'est vrai que la littérature est bizarre. Donc visiblement, dans certaines littératures, ça se fêtait entre le 17 et le 23 décembre, et dans d'autres littératures, début janvier. Donc je ne sais pas plus que ça. Donc on élisait un roi, hein, pareil, avec une fève.
Et ah donc, oui, il y avait déjà la fève. Et c'était une galette de blé. Enfin, c'était peut-être pas une galette aussi sophistiquée que celle qu'on mange aujourd'hui.
Alors, en ce qui concerne la galette, elle a existé depuis la nuit des temps. Je ne sais pas quelle était la recette à cette époque-là. La recette ancestrale, c'est de la farine, de l'eau, du sel, pas de vin. Enfin, donc c'est vraiment basico-basique. Et ce, au travers du monde entier. Après, là, je n'ai pas retrouvé d'écrit, forcément, sur la recette en elle-même. Donc, on est sur une... Alors, c'était la forme aussi, la forme ronde, sa couleur jaune, rappelle le soleil, rappelle l'or, la lumière, l'astre, qui revient après le solstice d'hiver. Donc, là, ça, c'est pour la forme païenne. Et puis ensuite, on a eu le symbole plus religieux avec les rois mages. Donc les rois mages qui viennent apporter de l'or. Donc c'est Balthazar, le roi noir qui porte l'or. Gaspard, le jeune homme venu d'Asie qui amène la myrrhe. Et Melchior avec sa barbe blanche qui apporte l'encens.
À l'enfant Jésus, bien sûr, à la crèche.
À l'enfant Jésus, à la crèche. Et donc, du coup, l'épiphanie viendrait de là aussi.
Épiphanie, ça veut dire révélation, hein, c'est ça? Ça veut dire révélation, tout à coup. Donc les rois mages ont eu la révélation qu'un enfant était né, qu'il fallait y aller.
Et ils ont suivi l'étoile.
Avec les cadeaux.
Ils n'ont pas suivi la galette.
Mais l'histoire ne dit pas qu'ils amènent une galette, en fait. Enfin, c'est vrai. C'est étonnant.
Mais c'est en lien avec le symbole. Le cadeau religieux le plus précieux. Un côté païen. Et puis ensuite, le côté religieux avec la fête de l'Épiphanie.
Et Eliane, ouais.
Oui, je reprends après Françoise. Oui, l'histoire des Robins. Ils réunissaient aussi les esclaves.
Les Romains, oui.
Les Romains, donc ils travaillaient, c'était un moment de partage.
Et ah donc, oui. Même les esclaves étaient invités.
Donc les esclaves étaient invités à cette journée-là. Perfect. Donc ils faisaient une grande galette pour le moment de partage. Et le cadeau de récompense avaient les esclaves, c'était ils étaient une journée roi ou reine.
Mm-hmm, d'accord, on pouvait, voilà. Quel que soit
donc
son
c'est pour
statut.
Ça qu'on disait le roi. Mais et pour la journée.
Ah oui, bah oui. Il ne faut pas abuser non plus. Hein.
Et les barrières sociales tombaient.
Voilà. Voilà. Oui, et hein. C'est vrai, la galette, c'est un moment de partage.
Oui, il y a une histoire avec la date de l'épiphanie qui ne change pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire,
non,
Eliane.
Ouais, c'est, si on change la date, c'est par rapport au commerce. Ils se sont rendus compte qu'en pleine semaine, quand ça tombe en pleine semaine, par exemple là, ça va tomber par exemple un lundi. Donc, il y a des boulangeries qui sont fermées à lundi. Ils ne vont pas fêter la galette des rois à partir du lundi. Et or, la galette des rois se fête à partir du 6 janvier, du 5 à minuit d'ailleurs, parce que si on veut aller par là, l'épiphanie qui se fête en Espagne, leur Noël.
C'est là.
Voilà, ça se fête.
C'est quand il y a les rois mages qui arrivent.
Voilà.
Et on ne met pas les rois mages dans la crèche avant le 6 janvier.
Donc, l'épiphanie qui se fête en Espagne pour Noël, donc ils amènent les cadeaux, ils font leur Noël le jour de l'épiphanie, ça part à partir de minuit, comme nous, on part à partir du 24 décembre pour notre Noël.
Ou alors Saint-Nicolas, carrément avant,
voilà,
pour les gens de l'Est.
Aussi, Saint-Nicolas, le 6 décembre.
Le jour des cadeaux, ce n'est pas forcément le 25 décembre.
Dans les pays de l'Est.
Ouais, c'est ça. Hein.
Oui. Et juste une petite précision, aussi l'épiphanie pour les catholiques se fête le 6 janvier, mais pour les orthodoxes, voilà. C'est le 19 janvier.
C'est le 19 janvier.
Ce qui fait qu'on peut manger de la galette tout le mois de janvier,
Tout le mois de janvier, voilà.
Et même, en fait, on voit déjà des galettes dès le 24 décembre, enfin, voilà. Même avant, ouais. Dès décembre.
Mais maintenant, un petit peu pour tout, ils avancent les dates.
Oui, ils élargissent le calendrier. Voilà. Parce que surtout
peu, je trouve un peu commercial.
Bah, le truc, c'est qu'après les fêtes, en plus, on a tellement mangé qu'on n'a plus tellement envie de déguster la galette.
Voilà, ouais.
Comme les rois mages en Galilée, suivez des l'étoile du berger, je te suivrai, où tu iras j'irai, fidèle comme une ombre, jusqu'à destination, comme les rois mages en Galilée, suivez des yeux l'étoile du berger.
Et bon, alors il y a un côté donc effectivement transgressif, mais un peu comme les carnavals en fait, c'est pareil, hein, c'est le monde à l'envers, les puissants qui deviennent dominés et vice versa.
On cache quelqu'un sous la table aussi qui détermine la part que l'on attribue.
Oui, ça vient de quand ça?
C'est assez ancien aussi.
Ouais, on dit
c'est
à l'enfant.
Un enfant le plus jeune.
Le plus jeune.
Un innocent.
Voilà. Un innocent.
Et donc la fève, elle a existé dès le départ alors ?
La fève, alors dès le départ.
Et la fève
non,
se mangeait.
C'était.
Hein.
Alors, non. La fève. Alors, au niveau du Moyen-Âge, c'était d'abord une pièce d'or, une pièce d'argent ou un jeton, jusqu'à environ le 12e, 13e siècle. Et ensuite, donc ça a été une légumineuse. La fève était une légumineuse, symbole de fécondité et de bonheur.
Un haricot sec,
entre le 12e et 13e siècle, jusqu'aux années 1874-1875. Donc c'est assez précis là.
Ah oui, pourquoi ?
Bah parce que là apparaît la porcelaine de Saxe, produite en Allemagne. Et à partir de là, on commence à fabriquer des fèves en forme de bébé. Justement, le symbole est là.
C'est quoi, l'enfant Jésus ?
L'enfant Jésus, en forme de roi, en forme de reine, en forme de porte-bonheur. Donc là, les premières fèves datent de 1874-1875. Et on y reviendra, mais au musée de Blain, on a de très vieilles fèves. Ensuite, on va lâcher la porcelaine pour la fève de Saxe pour de la porcelaine de Limoges. Pourquoi ? Parce que la guerre 14 éclate et que finalement, on arrête.
On ne va pas mettre des fèves allemandes dans la galette française.
Exactement. Et que la porcelaine de Limoges apparaît au niveau de la fève dans les années 1920-1950. l'évolution fait que le plastique arrivera pour la fève dans les années 1960. Et toujours, si je reprends cette frise chronologique, en 1990-2000 apparaissent les fèves en céramique. Alors, céramique veut dire, elles peuvent être en porcelaine, c'est un terme générique, mais elles peuvent être aussi en faïence, en grès ou en terre cuite.
C'est vrai, on a un peu laissé tomber les fèves en plastique. Alors pourquoi ? Parce qu'elles fondaient, c'était moins, ça faisait un peu cheap peut-être, non ?
Je pense qu'il y a aussi, alors là c'est mon côté sécurité alimentaire. Il faut voir aussi si le plastique porté à haute température, il n'y a pas une migration de certaines molécules. Donc je pense que là, c'est mon côté prévention du risque alimentaire qui voit ça sous cet ordre-là.
C'est qu'elles étaient plus faciles à avaler sans le faire exprès, les fèves en plastique. Et vrai, elles étaient très légères. Enfin,
après,
celles de mon enfance.
Après, ça dépend de la grosseur aussi. Mais moi, je pense plus à... On a interdit le bisphénol A. Alors, je ne sais pas si dans les fèves en plastique, il y avait du bisphénol A, j'en sais rien. Mais en attendant, je pense que ça peut avoir un impact sur la réduction du risque chimique. C'est vrai que d'avoir des terres cuites, des grès, malgré tout, manger un peu de terre, c'est pas très grave.
Oui, puis pour les collectionneurs, je pense que vraiment, c'est plus intéressant, les fèves en céramique.
Enfin, bien sûr.
Ça paraît quand même plus prestigieux. Et là, ça nous amène au musée de la fève.
Et ben,
c'est ça. Quelle transition.
quelle transition. Alors, le musée de la fève. Alors, je vais le dire en toute simplicité parce que je n'y suis déjà pas pour grand-chose. Mais il a été créé par Jean Doucet. Et un des fondateurs, et Jean Doucet, c'est un oncle dans la famille.
Et elle s'appelle Françoise Doucet, je le rappelle.
Donc, qui a créé cette association, ce musée associatif qui est gratuit.
Et donc, c'est à Blain, dans le Loire-Atlantique. C'est pas loin.
C'est à Blain, en Loire-Atlantique. C'est ouvert toute l'année, du mardi au samedi, de 10h à 12h et de 14h à 17h30.
Donc, c'est tenu par des bénévoles ou il y a quand même des salariés Non, d'accord, j'enlève ma question.
Et il y aura même une bourse aux fèves avec des possibles échanges et achats le 29 mars 2025 à la salle des fêtes de Blain. Alors, on a commencé dans ce musée par une partie archéologie et vieux commerce. Et c'est en apportant les vieux commerces autour de la boulangerie qui est apparu donc les thèmes de la fève et des crèches. À partir de 1992. Les crèches, il y en a qui venaient du monde entier. Les fèves, il y en a plus de 10 000.
Dans le musée,
wow. Plus de 10 000. Et en 2008, il y a eu une généreuse donatrice de Paris, Nicole France Riffet, il faut la citer, qui a fait don de plus de 2000 fèves, qui a enrichi de façon substantielle la belle collection de fèves qui existait déjà, et pour plus de 150 000 euros, en fait, de valeur.
Oui, parce qu'elles sont évaluées. Ouais. J'imagine qu'il y a un marché, comme il y a beaucoup de collectionneurs de fèves.
Et c'est les fèves les plus anciennes, celles en porcelaine de Saxe et de Limoges, en fait, qui ont les prix les plus élevés.
Oui, c'est bien normal.
Il y en a peut-être
d'autres aussi qui sont prestigieuses, des fèves, je ne sais pas, en or, qui ont été faites en pierre précieuse, enfin...
Dans ces cas...
Peut-être pas dans la collection du musée, mais ça doit bien exister, des fèves particulièrement recherchées pour leur matière.
C'est possible, je pense qu'il faut aller visiter le musée pour le savoir. En attendant, les thématiques des fèves sont en lien avec l'histoire, la géographie, le cinéma, enfin tout quoi. Le sport, l'actualité, la nourriture, un peu tout. Donc, et les crèches sont très très réputées aussi en lien avec les fèves.
Non, pas celle-là.
Bon, de toute façon, j'aurai jamais la fève.
Et la couronne? On allait oublier la couronne.
Oh, madame. En plus, j'ai avalé la fève.
Dent cassée ne vaut pas fève. Le roi, c'est moi.
Il n'y a pas que la galette à la frangipane. On a plein de galettes différentes. Donc, je voulais laisser commencer Eliane et puis peut-être poursuivre aussi.
La galette, on disait dans le sud de la France, c'est la brioche avec des fruits confits. Et dans...
Elle est en forme de couronne, hein, d'ailleurs.
Oui, toujours en forme de couronne, puisque comme on dit toujours, le roi, la reine, donc automatiquement, on reste toujours dans la couronne.
Je peux d'ailleurs ajouter que cette tradition donc, de cette brioche provençale, hein, avec des fruits confits à l'intérieur, elle vient des Saturnales. Donc elle remonte effectivement à, comment dire, aux origines romaines. Dans le nord de la France, du côté de Dunkerque, on est plus sur de la galette flamande, qui est une brioche fourrée ou pas à la fleur d'oranger. Du côté de Pau, alors là, ce n'est pas la galette flamande, c'est le garfou du Béarn, qui est pareil, une brioche à base d'anis.
Pareil en forme de couronne.
Alors là, elle est pas. Là, je l'ai pas trouvée en forme de. Je l'ai pas trouvée en forme de couronne là. Et j'ai regardé sur internet, c'était pas en forme de couronne. Il y avait que la provençale qui était en forme
oui,
de couronne.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a que la brioche qu'on fait oui. en forme provençale parce que la galette à la frangipane, on peut pas la faire en.
Oui, c'est difficile, ça tiendrait
pas. C'est difficile
pas.
De faire en couronne.
Ouais. Et ça vient d'où cette frangipane, cette idée de frangipane
Monsieur.
Alors, eh bien, justement, alors du comte Césaré Frangipani, qui au XVIe siècle, enfin qui a vécu donc au XVIe siècle, qui a inventé la crème.
Exactement la frangipane? On a peut-être une idée fausse. Moi, ma première idée, c'était que c'était juste de la pâte d'amande avec de l'œuf et du sucre, mais en fait, c'est pas ça. Et du beurre.
Alors ça, c'est la partie crème d'amande, la poudre d'amande, du sucre, des œufs, du beurre. On peut aromatiser avec un peu de rhum. Et après, de façon aléatoire, enfin, c'est facultatif, on peut rajouter un tiers de crème pâtissière.
C'est ça.
Le nom frangipane, frangipanier, il y a une plante qui s'appelle... c'est une plante exotique. Donc, on trouve dans les Caraïbes... Et donc, c'est par rapport à l'odeur de cette plante qui est rapprochée à l'amande qu'on a donné le nom aussi
frangipanier. Ah, c'est intéressant.
Par rapport à cette plante.
C'est clair.
Ouais. Donc, nous avons tout un mélange et toute une culture de recherche sur la frangipane.
Ah, c'est intéressant. Ah, mais ça. Et c'est. Alors, en France, la frangipane fut introduite grâce à Catherine de Médicis, qui l'a fit goûter à la cour de Henri IV. Mais ça, là, on est déjà. C'est après l'invention par le comte Césaré Frangipani, au XVIe siècle.
Alors, à part la frangipane, à part les brioches, est-ce qu'il y a encore d'autres galettes qu'on connaît moins, peut-être?
On voit apparaître la galette des rois, poire, chocolat.
Je pense que ça, c'est tout nouveau.
Oui.
Parce que là...
C'est vrai que c'est
récent. Donc maintenant, je pense qu'il y a des personnes qui n'aiment pas justement l'amande ou qui font des allergies à l'amande. Donc maintenant, ils mettent caramel, poire, chocolat, pomme...
On voit apparaître aussi des galettes des rois, alors en Bretagne, avec une pâte feuilletée, mais avec un peu de sarrasin aussi dedans. Et ça lui donne un goût particulier à cette pâte feuilletée. Alors, ce n'est pas un 100% sarrasin, mais ça la colore un petit peu plus et ça lui donne bon goût.
Il y en a peut-être qui font des queen amandes des rois aussi, avec une fève dedans. J'imagine.
j'avais même pensé. Je me suis posé la question, avec le bon gâteau breton que nous avons, pourquoi ne pas faire aussi la galette des rois avec ce sablé breton?
Oui, tout à fait.
Mais j'ai pensé qu'il va avoir un problème avec le Pays basque.
Oh, bah non, pas tellement.
Bah, le gâteau basque ressemble un peu au gâteau breton. C'est un sablé un peu, pas tout à fait la même chose. Et la garniture du gâteau basque, c'est aussi à base... d'essence d'amande à la crème pâtissière.
Ah bon?
Oui.
Je pensais que c'était exactement comme le gâteau breton, moi.
La base, mais la garniture, le véritable, comme ils disent, gâteau basque, c'est la crème pâtissière à base d'amande. Après, donc, il y a la cerise à la framboise. On peut même trouver aussi au pruneau, mais le véritable, c'est à l'amande.
Mais ils ne s'en servent pas comme galette des rois, quand même.
Je ne sais pas.
Bon, on lance un appel aux auditrices et aux auditeurs basques. Vous pouvez nous envoyer un message.
Découpe-toi.
Putain, merci, j'adore trop découper. Alors, je la coupe en 4 ou en 8.
Bon, 16 Bon, 8, c'est bien. Comme ça, ça fait des pas trop grosses parts, non?
Ouais, mais ça fait moins de chances de trouver la fève.
Bon, il y a moins de chances de trouver la fève, je vais pas être la reine.
Bah oui, mais c'est ça aussi qui est chouette avec la galette, non? Enfin, c'est la fève.
Bah ouais.
Ouais, et aussi parce que votre copine Émilie, elle a fait une frangipane maison.
Ah oui, la frangipane, c'est délicieux. Enfin, j'adore, quoi.
Moi, j'aime pas la frangipane. Mais bon, tout le monde s'en fout.
Bon, je la coupe en combien?
Bah en 8, c'est bien. Et puis, te fais pas trop de soucis pour la fève.
Attends, me dis pas que t'as fait les trucs des darons pour que tous les enfants aient la fève.
Je vois pas du tout de quoi tu parles.
Alors, on va passer aux trucs et astuces pour réussir sa galette. Recettes, éventuellement.
Ça reste, je vais dire toujours, pour moi personnellement, je trouve que ça reste la frangipane. Chaque personne adapte un petit peu à sa sauce. Maintenant, on rajoute la crème pâtissière pour alléger. Mais la frangipane, il n'y a pas de crème pâtissière dans la frangipane.
Non, c'est facultatif.
Voilà, il n'y a pas de...
Voilà. Oui, dans les années 60, quand j'étais gamine et qu'on achetait une galette des rois, elle était toujours galette sèche, comme on dit. Il n'y avait jamais de frangipane dedans. Je ne sais même pas si on avait le choix à l'époque. Si, ça existait déjà, la frangipane, en 60.
Bah, sans doute, puisque ça remonte au 16e siècle.
Bah, voilà, oui.
Mais oui, mais il fallait être riche.
Bah, c'est ça. Puis, je ne sais pas, maman, elle préférait la galette sèche dès que c'était plus savoureux. Et moi, j'ai toujours été habituée à manger ça. Et le jour où j'ai mangé la frangipane, j'ai trouvé que c'était écœurant. Et je reste toujours sur cette pâte feuilletée craquante.
Une bonne pâte feuilletée, alors.
C'est une bonne pâte feuilletée. Et puis, quand on est enfant, c'est les souvenirs d'enfance. Donc, du coup, ça reste important. Voilà.
C'était le petit mot de Pascal aussi.
Mais en soi, c'est pas compliqué de faire une galette des rois. Hein. Il faut deux pâtes feuilletées.
Mais si on fait pas soi-même la pâte feuilletée, oui.
Ah oui, si on la fait pas. À l'intérieur, on met la garniture. Hein, donc,
la garniture qu'on veut.
La garniture qu'on veut. Donc c'est des amandes, c'est des œufs, c'est un peu de sucre, c'est du beurre. On pourra mettre la recette éventuellement sur le site, un peu aromatisée. Voilà. Alors on la met et on laisse 3 cm. Sur le pourtour de la pâte, on n'oublie pas de mettre la fève, on remet la deuxième pâte.
Mmh. Et comment on fixe les deux pâtes feuilletées?
On appuie un petit peu, on peut coller avec un petit peu d'eau aussi. Ça marche super bien. Et puis après, avec le pouce, on rebadigeonne avec un jaune d'œuf.
Pour le côté brillant
pour le côté brillant, on peut scarifier légèrement pour faire une jolie déco. Et puis, on va laisser environ 35 minutes, 40 minutes à 180 degrés.
Ah oui, quand même. C'est long.
À voir, il ne faut pas que ça crame non plus, mais ça dépend des fours aussi. Mais je dirais une bonne demi-heure à 180 degrés.
On peut mettre aussi un petit peu plus fort pour que ça donne aussi le côté croustillant, pour que ça ne fait pas. Certaines pâtes feuilletées, ça peut faire pâteux en dessous, et je trouve que ce n'est pas très, très bon. Mais comme dit Françoise, tout dépend le four de chaque personne.
Mais oui, ça, c'est le gros problème.
C'est le gros problème, oui.
Un mot de conclusion.
Comment fait-on quand on achète une galette des rois où il y a deux fèves dans la galette, ou alors pas de fèves du tout?
Ce sont des anecdotes réelles qui sont arrivées,
vécues,
qui ont été vécues.
C'était le mot de la fin pour moi.
Eh bien, merci mesdames. Et on a pu entendre au cours de cette émission un extrait du film « Ça n'arrive qu'à moi » réalisé par Francis Perrin et un extrait d'un court-métrage réalisé par le youtubeur Lucien Mène. On retrouve l'association 4 quarts dans l'Aisne le 29 avril. Pour un autre sujet lié à la table, bien sûr, à ce que nous mangeons, à ce que nous buvons. Et il sera question cette fois de lactose, avec ou sans. Cette émission qu'on vient d'écouter, en attendant, on la déguste sur le site internet de Transistor.